comme chaque dernier vendredi du mois, le bilan mensuel avec évidemment un regard sur les prochaines semaines et les prochains mois. C'est notre grand tableau de bord des marchés en format réduit. Aujourd'hui, on saluera Jean-François Bay de Cantalis qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais nous sommes avec Bertrand Lamiel, je le disais, directeur général de Porsche Vampare Gestion et Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Bertrand, qu'est-ce qui a marqué les marchés au cours de ce mois d'avril? Il y a eu un changement de régime, un changement d'ambiance, peut-être un changement de psychologie aussi de la part des investisseurs. Moi, ce que je vois, c'est que les marchés obligataires ont corrigé et que les marchés actions ont un peu retracé, ce qui fait que ça a été un mois toujours un peu compliqué pour ce qu'on appelle les 60-40, les portefeuilles balancés, les portefeuilles diversifiés. Qu'est-ce que vous retenez de ce mois d'avril? Vous parlez d'une inversion de polarité, Bertrand.
Oui, en fait, il y a plusieurs indices qui nous disent « Ah !» certes, on est sur des points hauts, donc ça a retracé, ça revient. Donc, si on dézoome un petit peu, on peut dire rien de grave. Donc, effectivement, rien de grave. Mais on commence à voir des choses qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, ce qu'on disait, en gros, il fallait avoir les très grosses capilles, des gros indices. Et en gros, le job était fait, il n'y avait plus rien à faire. Là, on le voit typiquement sur le graphe du haut. Mmh. On s'aperçoit que là, on a une bataille, CAC contre CAC et cupondéré. Et ben, on s'aperçoit que le CAC qui a tiré pendant très longtemps, c'est la courbe qui monte, ouais. En fait, là, n'arrive plus à marquer des points hauts. Donc, on n'est pas encore dans une inversion où les petites valeurs du CAC reprendraient complètement le leadership. Mais en tous les cas, les grosses n'arrivent plus à faire la différence. Si on prend quelques exemples, dans les grosses valeurs du CAC 40, on a Sanofi qui fait 6% du CAC 40, moins 2. L'Oréal, 6% du CAC 40, moins 2. La meilleure dans les 5 premières, c'est Schneider qui fait plus 17. Mais si on va regarder quels sont les meilleurs performeurs depuis le début de l'année du CAC 40, on va trouver Accor, 0,4% du CAC 40, 22%. Publicis, 1% du CAC 40, 25%. Renault, 0,4% du CAC 40, meilleur performeur de l'année, 32%. Donc on voit que les petits, les gros indices, en fait, sont sur le palmarès.
Le facteur taille est moins pénalisant. Enfin, le facteur méga taille est moins recherché forcément moins par les investisseurs. Moins, ouais. Comment tu dis, Laurent ?
Favorisant.
Ouais, moins favorisant, c'est ça.
Et on a la même chose sur l'Eurostock 50. Et alors, sur l'Eurostock 50, la chose qui est intéressante à aller regarder, c'est que donc ASML, LVMH, Total, SAP, Sanofi, en moyenne, progressent de 13. Très bien, l'Eurostock est à 10, donc on voit que ça tire encore sur les grosses. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les 5 meilleurs performeurs de l'Eurostock 50, donc qui en moyenne font 1 et quelques pourcents de l'Eurostock 50, on est à 32% de performance. Donc ils font 3 fois mieux que l'Eurostock. Et alors, la composition, parce que ça, c'est un inédit, franchement, quand je l'ai écrit, je l'ai relu à 2 fois. ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. UniCredit, une banque, Intesa, une banque, BBVA, une banque, Santander, une banque. Au milieu de tout ça, il y a Safran qui se fait une place.
On a l'impression de se retrouver dans les années 2000.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai relu,
c'est
je me suis
ça.
Dit,
ah bah oui.
Est-ce que j'ai ressorti...
C'est les banques espagnoles et les banques italiennes. Et c'est marrant parce que les banques françaises ont été un peu moins punchy, j'allais dire, de ce point de vue-là. Mais les banques italiennes et les banques espagnoles, là, comme vous le montrez, c'est spectaculaire.
Gagner 30% sur une banque en un trimestre, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu.
Le Stoxx 600 banque, c'est 19% depuis le début de l'année.
C'est le meilleur performeur, un des meilleurs, oui. Il y a peut-être la tech qui arrive à...
Oui,
mais en Europe, c'est moins...
Là, le momentum, il est plus pour les banques que pour la tech.
Dingue.
Et donc, on a la même configuration sur le S&P, où le S&P, les grosses du S&P avancent toujours, mais les petites se font une place au soleil, et donc on voit qu'il n'y a plus cet avantage sur le sujet du S&P. Donc ça, c'est un premier point qui est l'avantage aux très grosses capilles. À minima, c'est une pause. On n'est pas encore sur un renversement, mais à minima, c'est une pause. Il y a une fracturation dans le mouvement. Et alors après, un autre, il y a toujours le jeu, est-ce que je vais aux États-Unis, est-ce que je vais en Europe, quid du change, des choses comme ça. Là aussi, il y a une information qui est importante, c'est que quand on prend, jusqu'à présent, le Nasdaq faisait mieux que le S&P. Ouais. Pareil, on refait le match Nasdaq-S&P, et là on s'aperçoit, croisement des courbes, la Golden Cross qui arrive, le S&P est en train de reprendre le leadership sur le Nasdaq. Et donc ça, bah, vous voyez, ça fait quand même un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, puisque là, on remontait à 2022, voilà, donc ça fait quand même 2 ans qu'on avait ça.
Alors Bertrand, un mot, parce que moi j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de dire l'année dernière concentration, c'est pas bon, cette valeur qui tire le marché. Et là, on a du relais.
Ouais, alors, c'est ça.
Il faut voir si ça va continuer ou pas. Ouais. Après, il y a une deuxième question, c'est est-ce que tout ce qui n'est pas tech est capable de soutenir le marché si la tech s'affaisse ? Ouais. La réponse pour moi est non. Mais si la tech stagne, alors là,
si c'est juste
en vraie rotation, exactement.
Ça peut avoir une vraie rotation.
C'est pas mal d'avoir enfin ce relais.
Et ce qui est intéressant, c'est pas juste le S&P qui bat le Nasdaq. Même l'Eurostox reprend aussi de la vigueur en relatif par rapport au Nasdaq.
On se met en euros, évidemment, pour annuler le risque de change. Donc, vu d'un investisseur européen, ça veut dire j'achète un tracker Nasdaq, typiquement, que je peux mettre sur mon P1. Ou est-ce que je prends un tracker Eurostox 50 ? Bah là, ça y est, c'est parti. Hop, on a l'Eurostox 50 qui, enfin, reprend le leadership sur le Nasdaq. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Bon, voilà, on a eu un cycle. Eh bien là, il est en train de s'inverser. Donc, il faut commencer à... Effectivement, on voit que sur le Nasdaq, les 7 magnifiques, bon, bah, elles sont plus 7. Qu'il commence à y avoir une véritable fracturation. Ouais. Et donc, il faut commencer à les regarder ailleurs. Et oui, parce qu'aux États-Unis, il faut avoir en tête, hein, si on prend le S&P, qui est l'indice le moins déséquilibré en termes de secteur, la tech, c'est quand même 30%. Ouais. Donc forcément, si à un moment donné, la tech cale, voire redonne de la performance, les autres derrière, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Mais quand il y a 30% qui cale, voire qui recule, ça peut être compliqué sur les grands indices. Donc, nous, ce qu'on prône, voilà, parce que c'est ça, mais pour le coup, preuve à l'appui, c'est voilà, il faut commencer à les regarder ailleurs. Le stock picking, il y a des choses vraiment sympas à faire.
Sur les 7 magnifiques, justement, on est à peu près à mi-parcours des publications. On aura encore Apple, Amazon la semaine prochaine et Nvidia fin mai. Hein, c'est très tard, Nvidia, dans le secteur des semi-conducteurs. Quelles leçons vous retenez ? Alors, des chiffres publiés et de la manière dont le marché a réagi. Bon, Tesla, il y a eu visiblement un phénomène quand même de short squeeze à un moment sur la publication.
Moins 50% quand même. Hein,
oui, non mais voilà, venant de moins 50. Meta, ça avait fait plus 15 en février quand ils annonçaient un dividende. Ça a fait moins 15, moins 10 sur la publication. Et puis là, bah, Microsoft et Alphabet, j'allais dire, si on avait besoin d'être rassuré, heureusement qu'on a encore ces groupes-là, quoi, Bertrand.
Oui, alors bon, on est, par exemple, depuis le début de l'année, Apple est à moins 12. Voilà, ouais. Donc un exemple au milieu du reste, effectivement, ça fractionne. Et oui, on voit qu'il y a des sociétés comme société de logiciels, Constellation Software, qui fait 59% depuis le début de l'année. Donc juste en dessous de Nvidia, qui est à 65%. Mmh. Et on va voir du semi-conducteur, donc des boîtes moins connues, comme Micron, qui fait 30% depuis le début de l'année. Donc il y a des choses à faire, effectivement.
Il y a d'autres sociétés qui montent aussi en termes de momentum.
Qui se comportent bien, donc il y a du relais, donc on est dans cette phase de transition, et dans les autres transitions qu'on voit dans les autres points de pivot, c'est sur les taux.
Ah.
Et là, sur les taux, on avait vécu, là j'ai mis le taux européen, alors la remontada voilà, depuis les points bas, qui avait été la plus rapide de l'histoire et qui avait fait mal au marché. Et derrière, ça stagnait. On voyait que ça restait calé sous une horizontale. Ben là, on passe au-dessus, on vient s'appuyer. Enfin, c'est très propre techniquement parlant. Et c'est la même chose, encore en plus puissant, aux États-Unis. Donc ça, probablement, ça explique aussi le parcours des banques. Parce que dans le même temps, je ne l'ai pas mis, mais l'écart entre le 2 ans et le 10 ans... Donc on est toujours en courbe inversée.
Oui.
Mais l'écart entre le 2 ans et le 10 ans est en train de se réduire.
Ouais. On était très loin dans l'inversion, on était à plus de 100 points de base d'inversion à un moment.
Et donc là, il y a probablement, dans la tête des investisseurs, le truc de se dire, bon, d'ici peu de temps, les banques centrales vont baisser les taux, donc du coup, on va retrouver une courbe normale, donc qui commence à se positionner dans cette logique-là. Probablement ça qui fait que c'est un parcours exceptionnel sur les banques. C'est, franchement, c'est très bien aussi sur les assurances.
Ouais.
Donc on voit que ça, c'est des secteurs qui n'avaient pas l'habitude de citer, pas l'habitude d'être sur le palmarès, mais surtout qui le sont depuis un moment.
Ouais.
Parce qu'en fait, cette performance, elle dure, elle n'est pas depuis...
Même en 23, hein, le secteur bancaire en Europe, en 23, fait très bien. Hein.
On est sur plus de 18 mois de
performance, c'est ça.
Très nette.
Oui, bien sûr. Et ça se fait tranquillement, compliqué. Ça se fait sans grand bruit, mais oui, parce que les banques sont toujours un peu traitées à part dans les marchés, c'est toujours des animaux un peu spéciaux.
Il y a
donc
les stigmates, il y a les stigmates de 2012, il y a les stigmates
de 2012. On a un peu de mal à dire, ah oui, les banques,
c'est bien. Je peux vous assurer, quand vous en parlez à des gérants, et moi je le vois de mon équipe, quand on dit, tiens, il faut y aller sur les banques, celles qui tirent, c'est les
Italiennes. Le premier mouvement, c'est ouf.
Les Italiennes ou les Espagnols, tu fais
ouf.
On est sûr qu'on veut y aller.
Sure.
Et en fait, après, on va regarder les fondamentaux. Et oui, ils ont leur moteur propre qui font que ça s'améliore. Enfin, ils partaient de plus loin. Et donc, du coup, il y a une amélioration qui est très nette là-dessus et qui dure. Et donc, qui est validée trimestre après trimestre. Et là, on a encore eu les trimestriels. Et OK, ça valide. Donc, c'est logique. Et le marché, entre guillemets, ne fait que récompenser des trends de bons résultats.
On a des niveaux de retour sur capitaux qui n'ont jamais été aussi élevés que depuis alors, la grande période d'avant la grande crise financière. Hein, mais la référence, ça reste 2007 de ce point de vue-là. Je crois qu'en termes de retour aux actionnaires pour les banques européennes, là, les montants dépassent ce qui pouvait être rendu aux actionnaires dans la période 2000-2007. Sur l'année 24, enfin au titre de 23, je crois que c'est 100-120 milliards qui vont être redonnés aux actionnaires, soit sous forme de rachat d'actions, soit sous forme de dividendes. Hein. Donc là aussi, il y a même cet aspect-là qui est normalement attractif.
Oui, pour, et puis bon, il y a eu l'adaptation aux différents ratios, balle 1, balle 2, enfin tous ces sujets-là.
Ce gros choc-là est un peu
qui
derrière.
Sont relativement rodés. Donc on a des banques qui ont réussi à s'adapter, qui arrêtent d'être pénalisées quand elles ont des liquidités. Enfin, ça fait un petit moment qu'elles. Maintenant, il y a. Voilà, quand vous commencez l'année avec de la trésorerie dans la caisse, vous savez que vous embarquez déjà du bénéfice à la fin de l'année. Donc tous ces éléments-là se cumulent et font que ça explique le...
Et ce qui explique aussi la différence entre les banques italiennes, espagnoles et les banques françaises en termes de performance, c'est qu'il y a beaucoup plus de crédits, de taux variables dans les banques italiennes et espagnoles, et donc elles ont pu profiter très vite, très fort du mouvement de remontée des taux. Et c'est vrai que pour les banques françaises, le mouvement est un peu plus décalé, on va dire, dans le temps, avec une pente de courbe pour l'instant qui n'est pas non plus hyper favorable aux marges nettes d'intérêt.
Et pour répondre à votre question...
Laurent, je n'ai pas encore posé ma question, mais je vais la poser sur les taux.
Non, mais que vous écoutez à Bertrand. Qu'est-ce qui caractérise finalement ce mois d'avril ? Moi, je dirais, si je devais donner un titre, ça serait « Retour à la normale ». C'est-à-dire qu'on a été dans une séquence où ce n'était pas la peine de réfléchir. Il fallait acheter de la tech. Et là, on doit se reposer, on doit se remettre à réfléchir, en fait, pour savoir où est-ce qu'on doit rebalancer, qu'est-ce qu'on doit réévaluer. Il y a des secteurs dont on ne parlait plus, le pétrole, qui revient. Donc moi, j'aime bien les médias, j'aime bien l'assurance, j'aime bien la chimie. Enfin, la chimie, mais c'est complètement has-been. En termes de surperformance, elle recommence à pointer le bout de son nez. Ouais. Donc voilà, avril, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre où il va falloir, peut-être du monde qui précédait cet écrasement de la tech sur les marchés, où il va falloir se remettre à considérer beaucoup plus de choses.
Ouais. On a fini par tourner un peu en rond autour de la tech et de l'IA. Évidemment, tout le monde a en tête que le thème IA va se déployer sur des années.
Alors, c'est pas fini.
Des décennies,
hein.
Bien sûr.
C'est pas fini.
Mais
disons qu'ils ont capté toute la lumière.
Oui, c'est ça.
Et là, ils avaient la part du lion. Et là, je crois qu'ils vont, la tech va devoir apprendre à partager le gâteau. Parce que les flux vont commencer à aller, à réfléchir pour aller ailleurs. Et c'est peut-être ça, avril, finalement.
Ma question pour vous, Laurent, sur les taux.
Aïe.
Qu'est-ce qu'on peut dire ? Enfin, je veux dire, 4,70 franchis sur le 10 ans américain. Est-ce qu'il faut se préparer ? Alors, j'appelle ça « Souviens-toi l'été dernier », parce que c'était un peu après l'été, mais octobre, fin octobre, le 10 ans américain touche les 5%. Et ensuite, l'histoire change. Mais est-ce qu'on est en train de revivre cette séquence ? Et est-ce que 5% sur le 10 ans américain, est-ce que c'est un objectif évident aujourd'hui, techniquement ?
Alors, moi, je poserais la question différemment. C'est est-ce qu'on va aller au-dessus de 5 ? Voilà, c'est ça la question pour moi. Parce que les 5%...
Oui, de 4,70 à 5, je suis d'accord. Ouais. Si ça reste là...
La question, c'est est-ce que l'inflation aux États-Unis a fait son point bas ? Parce que si on est dans cette histoire... Ça veut dire qu'il faut encore une fois se remettre à réfléchir. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois on devait jeter à la corbeille tous nos scénarios et tout recommencer. Ouais. Et donc personnellement, je ne peux pas vous répondre. Ouais, mais en tout cas, c'est pas un scénario que j'exclus totalement de revoir les taux longs monter aux États-Unis, même si c'est difficile à croire.
C'est-à-dire que ça vient vite après le mois d'octobre, je trouve. On pouvait imaginer peut-être de nouvelles séquences d'inflation à terme, etc. Mais là, ça vient six mois après, quoi.
Ouais.
Ça vient six mois après.
Donc, je suis pas économiste et j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée sur ce que je peux dire, sur ce qui va se passer sur les taux. En tout cas, ça invite à la prudence.
Ouais.
Et ça invite à réfléchir encore une fois sur la rotation. Et ça invite à reconsidérer des secteurs dont plus personne ne voulait, les défensifs. utilities, télécoms. Moi, j'aime bien les télécoms. Alors, c'est très, très tôt. Hein. On est très, très en avance hein, si on paye des télécoms. Mais je trouve qu'ils commencent techniquement à avoir une configuration qui est...
Des valeurs sensibles au taux. Hein.
Et oui. En Europe. Voilà. Les foncières, on en parlera tout à l'heure. Point d'interrogation.
Ah ouais, je comprends.
Voilà. Donc, voilà, un contexte qui est mouvant avec une histoire qui continue d'être écrite. Bon.
Intéressant, on va...
Ouais, Bertrand, parce que sur les taux, il faut avoir en tête que la montée des taux courts, pour la première fois de l'histoire, elle se fait sur une lutte contre l'inflation. D'habitude, c'était un sujet où l'économie s'emballait et où on avait une croissance qui allait trop vite avec des risques inflationnistes, et donc on montait les taux pour calmer l'économie. Là, on a monté les taux des deux côtés de l'Atlantique pour combattre une inflation
qui était... On a couru après l'inflation. Hein.
Voilà, qui était très forte. Donc du coup, par mimétisme et par répulsion, les taux longs sont montés. Donc en Europe, on a une croissance qui est... Enfin, on est zéro négatif en Allemagne, très faible partout, plus faible que ce qu'on avait anticipé. Donc la question de baisser les taux parce que l'inflation est peut-être jugulée, mais en tous les cas, que l'économie n'est quand même pas en grande forme, baisser les taux, ça a du sens. Donc, quelque part, le jeu de la BCE est simple. Je ne prendrai pas la place de Mme Lagarde, mais je pense que voilà. Ça,
c'est plus facile que
aux
États-Unis, côté américain.
C'est compliqué, parce que comme disait Laurent, l'inflation, ce n'est pas net, et surtout, l'économie va très bien.
Ouais.
Et donc, il faut se souvenir que sur un taux long, donc là, on est sur les taux gouvernementaux, mais sur les taux longs d'entreprise, il y a deux personnes qui se mettent d'accord. L'entreprise qui dit « Ok, j'accepte de payer ce prix-là, qui est assez élevé », et le prêteur qui dit « Bah oui, mais moi, en même temps, t'es assez riche pour le payer, donc on se met à ce prix-là ». Donc ils sont d'accord tous les deux, ça veut dire que l'entreprise pense qu'elle peut rembourser, donc c'est aussi un signe de confiance, et le prêteur se dit « Bah, il n'y a pas de raison non plus que je brade complètement mon argent ».
Ouais.
Donc oui, le jeu est un peu plus compliqué aux États-Unis. Ouais. Rajoutez à ça la couche élection, avec un des deux prétendants qui est capable de faire un buzz exceptionnel. Et donc, le jeu de Powell, il va être plus compliqué.
Ouais.
Parce que...
La fenêtre de tir est beaucoup plus serrée.
À partir de septembre, je pense qu'il ne peut plus bouger. Ah, ça va être compliqué.
C'est ce que nous dit
parce
un peu la théorie.
Parce qu'il risque de se faire taxer de militantisme pour les Républicains.
À trois semaines des élections en septembre, ça peut être compliqué d'initier un mouvement, en tout cas, à ce moment-là.
Donc là, oui, tic-toc, ça avance. Et,
C'est vrai que peut-être la fenêtre de tir s'est refermée jusqu'à la fin de l'année. Les réunions post-élection, c'est 7 novembre, deux jours après, enfin 6-7 pour la Fed, et ensuite décembre, où là, peut-être que, effectivement, la situation pourrait permettre d'initier un mouvement. Mais juin, juillet, bon, on verra ce qu'il nous dit la semaine prochaine. Là où ça va être intéressant, on aura une grosse semaine en termes d'actualité. On a eu l'inflation américaine là aujourd'hui, la première estimation de la croissance, mais la semaine prochaine sera autour de la zone euro. Première estimation de croissance pour le premier trimestre en zone euro, estimation d'inflation pour le mois d'avril en zone euro, et la réunion de la Fed qui marquera l'entrée dans le mois de mai, Laurent.
Oui.
Ce fameux mois de mai.
Ça fait mois de mai.
20 ans que j'observe les marchés, donc j'en suis à mon 20e mois de mai sur les marchés, Bertrand.
Alors effectivement, le mois de mai, il est spécial. Il est spécial parce que il y a cet adage de Wall Street, qui n'est d'ailleurs pas de Wall Street.
Ah bon.
Avant de venir ici, j'ai quand même réétudié la question. En fait, c'est un adage de la bourse de Londres, où on disait « Sell in May and go away ». And come back on Ledger's Day. Alors, qu'est-ce que c'est le Ledger's Day? C'est une grande course hippique où toute l'aristocratie londonienne se retrouvait après être partie en exode pendant l'été à la campagne. Et donc, ils se retrouvaient pour reparler
des marchés. C'était à la rentrée, septembre-octobre.
Voilà, c'est ça. Mi-septembre.
D'accord,
voilà.
Mi-septembre.
Et donc, le truc, c'est que comme toutes les grosses mains partaient dans leur manoir à la campagne, bah évidemment, l'activité sur les marchés...
Sur les marchés.
Voilà. Et donc, c'était un petit peu... On s'ennuyait un peu.
Il prenait 6 mois de vacances.
Donc, ça veut dire que le sell in May and go away, en fait, il faut pas le comprendre. Enfin, je pense qu'il ne faut pas le comprendre. D'abord, il faut rien prendre de manière catégorique ni scientifique. Hein, parce qu'il y a effectivement des années où mai, octobre n'a pas été très bon, mais il y a aussi des années où ça a été des très bonnes années.
Ouais.
Bon. Donc, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de saisonnalité, il y a quand même une tranche entre octobre-novembre et avril qui, statistiquement, est meilleure.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est indéniable.
D'accord.
Donc,
sans forcément que mai-octobre soit négatif,
exactement.
Vous dites octobre-avril, c'est généralement meilleur.
Là où je suis catégorique, c'est que les mois de printemps-été sous-performent. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs. Donc, si on peut regarder le chart...
Oui, le graphe, c'est le même go-away, effectivement. Il faut nous l'expliquer un peu, d'ailleurs, peut-être,
oui.
Laurent.
Alors, non, ce n'est pas celui-ci. Alors, voilà, c'est celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce qui s'était passé depuis 37 ans. Pourquoi 37 ans ? Parce que c'est la date de naissance du CAC. Donc, j'ai comparé le CAC avec le S&P depuis la naissance du CAC. Alors, on voit quand même deux graphiques qui sont très différents, mais qui disent la même chose. C'est qu'effectivement, de mai à octobre, aux États-Unis sur le S&P, statistiquement, il ne se passe pas grand-chose, puisque finalement, avec les deux flèches vertes, on voit qu'à la fin du mois de septembre, on est
au même niveau.
Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a quand même une continuation de la hausse pendant la première partie de l'été, et puis c'est à partir de fin juillet-août, où là, pour le coup, c'est plus très intéressant. Le chart du CAC 40 m'a surpris quand je l'ai préparé.
Celui-là, il est assez radical.
Il est radical. Et alors, il est tellement radical, moi, je suis... quand j'ai regardé ce que ça donnait, je me suis dit, mais j'étais comme Bertrand, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien mis les paramètres, là ? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper de charte ? Et en fait, pas du tout. Et là, le CAC 40, ouais. Effectivement, mais fin septembre, ouais. Il n'est pas beau. Ouais. Il n'est pas beau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est mon approche. Je ne pense pas qu'il faille vendre en mai. Parce qu'on peut toujours sous-performer. Si, par exemple, on fait 7 ou 8% sur la bonne tranche de l'année et qu'on fait 2 pendant l'été, eh ben voilà, 2 tous les étés pendant 10 ans, ça fait quelque chose.
Là, c'est une logique indicielle. Hein. On est sur une logique indicielle. Hein.
Absolument. Mais là où c'est intéressant, c'est que moi, je dirais plutôt... Sell in May and stay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez des titres dans votre portefeuille que vous ne voulez pas conserver pour le très long terme, eh ben, mais il me semble qu'il y a une question qui peut se poser, d'accord. Parce que c'est le moment où c'est quand même, en général, plutôt topiche. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre sur le sell in May and go away, c'est que la perf n'est pas négative. D'abord, c'est indiciel. Donc il y a toujours des très beaux dossiers,
bien sûr,
qui vivent leur vie.
Même des secteurs, voilà, qui peuvent être
exactement.
Tout à fait performants pendant les mois.
Mais statistiquement,
je comprends.
On peut découper l'année en deux et le printemps, été, et voilà. Mais on le sait bien.
Donc on ne vend pas son fonds de portefeuille au mois de mai, mois de mai, pour racheter le même fonds de portefeuille en septembre. Ça
n'a aucun
sens. Parce
que je peux vous dire que déjà, pour un expert timer le marché... C'est pas une mince affaire, alors on voit l'ampleur de la tâche.
Ça, c'est l'histoire, c'est les 37 ans, c'est celle du CAC 40. Laurent, moi, ce qui m'intéresse, c'est mai, octobre pour le CAC 40 en 2024.
Oui. Alors, j'ai une méthodologie pour essayer de bâtir des scénarios qui s'articulent donc sur la théorie des vagues d'Eliot. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce qu'est la théorie des vagues d'Eliot, sinon j'ai peur que vous ne me réinvitiez jamais.
On y passera une heure, c'est ça le problème.
Donc, en fait, pour faire simple, il faut dire deux choses. Ralph Eliot, comptable américain, né en 1870, mort en 1948, et qui établit des règles pour observer l'évolution des marchés. Sauf que il le fait en prenant en compte exclusivement la psychologie et le comportement collectif d'une foule. Oui. Donc, Eliot est à la finance comportementale ce que Charles Dow est à l'analyse technique. C'est le premier comportementaliste. En fait, il dit... Le comportement des actions sur un marché, c'est pas que des maths, c'est pas que de la valorisation, c'est pas que des fondamentaux. Il y a une dimension psychologique, comportementale, les biais cognitifs que la finance comportementale a largement étudié depuis, le biais moutonnier, mimétique, etc. Bon. Donc, il y a des vagues. Il dit qu'il y a des vagues, c'est-à-dire en fait des cycles. Au lieu d'appeler ça des cycles, il appelle ça des vagues. Et on voit sur le graphique des phases de hausse et de baisse. Alors ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que c'est la seule méthodologie qui permet de nous projeter dans l'avenir.
D'accord.
Avec des dates et des prix.
D'accord.
Sans que ce soit totalement fantaisiste. Il nous a laissé des règles et des directives, et donc on peut tracer des cartes. Mais, contrairement à des cartes de géographie, où les sentiers et les chemins existent déjà, on trace ici des cartes sur des chemins qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Donc ça complique quand largement la tâche. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir deux héliotistes avec deux visions différentes.
Une lecture différente.
Ce qui compte, c'est que les deux respectent les règles et les directives. Ouais. Donc, sur le graphique que vous avez à l'écran, ce qui saute aux yeux, c'est que je suis haussier sur 2024, ouais, puisqu'on a des chandeliers japonais jusqu'à maintenant et on a des flèches qui montrent où est-ce que ça va aller d'ici la fin de l'année. Alors, depuis septembre 2022, on a un cycle qui a démarré et Elliott nous dit, quand un cycle est composé de 5 vagues, ouais, dont notamment 3 qui sont haussières, la 1, la 3 et la 5. Et ces 3 vagues haussières sont interrompues par 2 vagues baissières ou de consolidation, la 2 et la 4. Le message d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est en train de commencer la grande 4. La grande vague 4, c'est une vague qui d'ailleurs correspond un petit peu à la saisonnalité. Mais ce qui est très important...
Donc vague baissière, hein, c'est ça, la 4.
Ou de conso.
Ou de conso.
Ou de conso.
Consolidation.
C'est-à-dire que c'est topiche, mais ce n'est pas forcément baissier. Mais le momentum haussier n'est plus celui qui a amené les cours sur les niveaux actuels.
Très clair.
Donc, on est dans une vague, une grande vague 4, qui commencerait maintenant et qui irait grosso modo jusqu'à septembre-octobre. Ce qui est très important quand on fait de l'Elliott, c'est de se mettre des œillères. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire correspondre la structure elliottiste à ce qu'on pense de la macro ou ce qu'on pense de la saisonnalité. Il faut faire de l'Elliott.
Ouais, je comprends.
Et c'est après qu'on se dit, mais alors comment ça, je le raccroche avec la macro ? Est-ce que ça coïncide ?
Est-ce que c'est cohérent avec
est-ce que c'est cohérent
sur le plan macro ou pas ?
Exactement.
Mais quand vous dites, quand on est embarqué dans l'analyse elliottiste,
oui,
il faut se mettre dans
ça,
un tunnel, quoi.
D'accord. Exactement. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est que mon scénario, donc pour 2024, c'est un marché qui reste haussier.
Ouais.
Mais j'ai envie de dire que le chemin facile, il a été fait.
D'accord.
Ça, c'est pas la très bonne nouvelle. C'est que ça va devenir...
Si, vous dites. Il va falloir réfléchir.
Voilà. Vous avez raison.
Ouais, c'est pas si mal.
Voilà. Il va falloir réfléchir plus parce qu'on voit bien que depuis le début du mois de novembre de l'année dernière, tout montait. Alors, il y a un autre adage de Wall Street qui est très drôle qui dit « Il ne faut pas confondre un bull market avec l'intelligence ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans un bull market... Quand l'indice fait plus 10, si vous êtes bon, ça fait, votre portefeuille fait plus 15. Et si vous êtes mauvais, oui, ça fait plus 5.
Oui, c'est
mais
ça.
De toutes les manières, vous gagnez.
Oui.
Là, ça va être plus
bien
compliqué.
Sûr.
Mais la bonne nouvelle, c'est que quand cette séquence estivale va passer, on devrait retrouver la saisonnalité et la vague 5.
C'est puissant, la vague 5 ?
Eh bien, là, en l'occurrence, non. Parce que la 1 est tellement gigantesque, ouais, et la 3 aussi, qu'il y a des effets de proportionnalité qui se calculent par des extensions de Fibonacci, parce qu'on ne peut pas parler d'Elliott sans parler de Fibonacci, mais pour faire simple, la 5, elle serait soit tronquée, ça veut dire qu'elle ne va pas plus haut que la 3, soit elle va légèrement plus
d'accord
haut, mais ça veut dire qu'il y aura un dernier grand swing à prendre à la fin de l'année.
Et mais on a fait... Peut-être le top de marché, quoi,
ouais,
pour dire les choses en langage plus simple.
Ouais,
moins
elliottiste
que vous,
oui,
Laurent.
Oui, 8006, enfin voilà, on est...
D'accord.
Y a encore...
On est dans cet étiage-là, quoi.
Si on va sur les 8006, ça veut dire que le CAC aura fait environ 13% et 5, sur l'année, 5% à partir des cours actuels, ça me paraît faisable, on va dire.
Quelles sont les chances de l'Europe dans ce contexte ? On parlait du CAC spécifiquement, mais de l'Europe en général, comparé aux États-Unis. Si on est dans ce moment où alors on sort de la période facile où c'était no-brainer, c'était la tech, et donc les US, et donc le Nasdaq first, s'il faut se mettre à réfléchir, est-ce qu'on a envie de réfléchir à l'Europe ?
Alors, c'est un petit peu comme le sell in May and go away, ça veut dire que les États-Unis ne vont pas perdre leur leadership. Mais je pense qu'on peut être un peu plus futé que juste continuer de se surpondérer sur les États-Unis et commencer à faire un petit rebalancing sur l'Europe. Alors, je vais vous dire, les valos européennes sont moins chères qu'aux États-Unis. Mmh. Vous allez me dire, on s'en fout, c'est historique. Mmh. On a toujours été moins chers, malheureusement. Donc, ce n'est pas un facteur qui est vraiment changeant. Mais il y en a d'autres. Je pense qu'il y a un scénario, en tout cas, sur lequel il faut réfléchir, sur le redémarrage de l'Allemagne. On est encore au tout début, et je ne sais pas si c'est le vrai départ, mais j'ai l'impression que l'Allemagne a mangé son pain noir.
Ah, mais ils viennent de réviser à la hausse, hein ?
Oui, mais est-ce que ça va durer ? Bon, on est au tout début. Bon, mais je pense que l'Allemagne, il y a peut-être Et l'Allemagne, c'est quand même un tiers du PIB européen. Donc, si l'Allemagne repart, c'est quand même un facteur qui accompagne, de soutien.
Sûr, bon. Sûr.
Ensuite, il y a la Chine. La Chine, alors la Chine, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle va retourner sur ses rythmes pré-Covid, mais je pense qu'elle aussi, elle a mangé son pain noir. Et je pense que les marchés chinois, je ne sais pas exactement s'ils vont partir à la hausse, mais je pense qu'on est, sur le point bas. Donc, je pense qu'il y a déjà deux facteurs qui soutiennent. Le troisième, c'est la BCE. Elle est quand même dans une situation moins compliquée.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà,
oui.
Que la Fed.
Il y a au moins deux baisses de taux faciles à faire. Après, ouais, on verra ce que fait la Fed, etc. Mais les deux, enfin, au moins la première, ça c'est sûr.
C'est sûr.
Et sans doute, jamais un sans deux, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là. En faire qu'une, ce serait un peu,
donc,
un
si,
peu court.
Si la BCE baisse, il y a une question à se poser sur l'euro. Qui a peut-être pas baissé, peut-être que c'est pas entièrement dans le cours de la devise.
Ah.
Cette deuxième baisse de taux.
D'accord.
Et donc, ça pourrait être un élément compétitif pour les valeurs.
Vous voyez plutôt
peut-être
l'euro rebaisser ?
Oui,
d'accord.
Peut-être. Peut-être.
Enfin, ouais, ouais.
C'est une piste possible. Ensuite, par rapport à l'Europe, il y a quand même quelque chose à dire sur la tech US. Parce que pour moi, il s'est passé quand même quelque chose enfin, depuis le début de la publication du premier trimestre. C'est que la tech était chère. Et que le risque, quand une entreprise est chère, est chèrement valorisée, c'est qu'elle a beaucoup de pression pour continuer à délivrer.
Bien sûr.
Et que quand elle ne le fait pas, enfin, Facebook, pour moi, Meta, c'est quand même vachement intéressant ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas démérité chez Facebook.
Ah bah,
hein. Il y a 27% de hausse sur le chiffre d'affaires.
Spectaculaire. Non, mais les chiffres sont excellents.
En fait, pourquoi ça a buté comme ça ? Parce que Zuckerberg a dit que finalement, les dépenses liées à l'intelligence artificielle allaient rester très importantes. Mais excusez-moi, mais quand ils faisaient du shares buyback, on disait vous avez rien de mieux à faire que de racheter vos actions. Et quand il dit je vais investir massivement sur le thème dont tout le monde parle et dont tout le monde dit que c'est un game changer pour toute l'industrie, il est puni.
Amazon a vécu ça pendant des années. Je me souviens, chaque trimestriel d'Amazon, c'était des pertes. Et les investisseurs comprenaient. Ah ben oui, mais j'investis. Et puis un jour, le marché a fini par comprendre que oui, ça payait quoi.
Alors donc. Le marché n'a pas compris sur Meta,
ouais, ouais,
parce qu'il a quand même le titre a quand même dévissé de 10%. Et donc ça me dit que, juste pour terminer, si la tech, j'ai l'impression qu'il y a une petite fatigue du marché par rapport à la tech. Et ça, c'est bon pour l'Europe.
Ouais.
Parce que ça veut dire que la vieille économie, ou l'économie traditionnelle, peut retrouver, même vis-à-vis des investisseurs étrangers et américains, un attrait.
Bertrand, d'accord avec cette idée relative Europe-US et en Europe, là, pour revenir à votre thème de l'inversion de polarité, qu'est-ce que ça signifie en termes de secteur, en termes de style également peut-être ?
Bah, c'est intéressant parce qu'avec des raisonnements différents, on arrive à peu près aux mêmes conclusions et au même timing. Donc là, sur le graphe, c'est un match entre les défensives. Donc on va retrouver la santé, les télécoms, l'immobilier.
Les utilities.
Ouais. Et de l'autre côté, les cycliques, industriels, banques et tech.
Ouais.
Et donc, on voit que globalement, c'est une grosse sinusoïde. Pendant 2 ans, l'un surperforme, pendant 4 ans, c'est l'autre. Voilà, et c'est les passages de relais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce que j'ai mis dans les ellipses, là, donc c'est les croisements de moyenne mobile de 5200, alors, c'est pas très précis, mais en fait, c'est juste que c'est intéressant parce que ça permet de se préparer à changer. Et donc, quand on a été gavé de tech et que ça s'est très bien passé, se dire, tiens, je vais faire de l'immobilier.
Ça prend du temps.
Il y a un mind switch quand même à faire.
Ça prend du temps.
Et donc là, il y a 4 mois, 6 mois, voilà, où après ce croisement-là, en général, on voit ressurgir. Et donc là, ce qu'on devrait potentiellement, donc à voir, on va surveiller ça, la santé, les valeurs plutôt immobilier, services aux collectivités qui pourraient reprendre le leadership. Et donc ça, c'est intéressant parce que vous savez, nous on aime bien le sujet de la finance comportementale, on a monté des outils là-dessus et je le sais, moi le premier, j'adore la tech, j'adore les valeurs de croissance. Quand il va falloir que je m'intéresse et que je mette 2 ou 3 valeurs foncières dans le portefeuille, je peux vous assurer que il va se passer un petit peu de temps.
Ouais, ça oblige à penser un peu contre soi-même, quoi. Faut se forcer un peu, quoi.
Exactement.
Ah ouais.
Donc voilà, donc dans les inversions de polarité, il y en avait plusieurs que j'étais, donc il y a celle-ci où il faut se préparer parce qu'effectivement, on le le voit, donc sur les 7 magnifiques, ça commence à craquer. Donc il faut réussir. C'est des très belles boîtes, elles ne vont pas faire faillite demain, des trucs comme ça. Mais à un moment donné, les investisseurs, ils votent. C'est un concours de beauté.
Exactement.
Donc s'ils décident que les européennes sont plus belles que les américaines, oui. Ben, il faut juste acheter des européennes. Enfin, il faut être hyper pragmatique de ce point de vue-là. Donc il faut se préparer à ça. Et donc aller regarder. Et puis ça va être compliqué parce qu'au départ, personne ne va être d'accord. C'est-à-dire que forcément, tous ceux qui, comme moi, sont un peu plutôt en logique croissance, repartir sur un cycle plutôt value, je vais leur trouver tous les défauts possibles. Mmh. Évidemment, les value, donc, avant que tout le monde se mette d'accord, il va se passer un petit peu de temps. Mais voilà, c'est probablement ce qui nous attend sur cet été, commencer à retravailler, aller rechercher les dossiers qui commencent à mieux se comporter dans le secteur, avoir des trimestriels qui sont validés par le marché, des analyses qui commencent à ne plus baisser les objectifs, mais à les rehausser. Pour probablement aller changer un peu son portefeuille.
Juste d'un mot rapide, parce qu'il nous reste peu de temps, Laurent, mais on n'arrête pas de parler. Vous citez d'ailleurs les mêmes secteurs en Europe, santé, immobilier, utilities,
télécom.
Juste un mot rapide, là, vous êtes venu avec deux graphiques,
oui.
Stock 600 santé, Stock 600 foncière cotée en Europe.
Ok, donc, alors, la santé, deux choses à dire. La santé en Europe et la santé aux États-Unis, c'est pas la même histoire.
Ouais.
Donc, attention pour les investisseurs.
Ça baisse aux US.
Ouais, c'est ça. Donc, on parle vraiment de la santé européenne, on parle des grosses capitales. Ouais. Stock 600 santé. J'étais venu sur ce plateau, Grégoire, et je vous avais montré le même graphique sous la résistance, et je vous avais dit, en fait, on attend le franchissement. Et techniquement, c'est un très beau tableau, parce que la résistance a été dépassée, et les cours reviennent tester la résistance qui devient support, et on retrouve des acheteurs. Donc ça veut dire que la santé, pour moi, c'est vraiment une thématique sur laquelle il faut réfléchir. Il y a des beaux dividendes, c'est des belles boîtes.
Sanofi a très bien publié.
Tout à fait. Donc voilà, donc secteur de la santé.
En Europe, je reprécise, parce qu'effectivement, aux États-Unis,
c'est pas la même
configuration. Et les foncières cotées en Europe.
Alors, les foncières cotées en Europe, c'est pas pareil. Le signal est beaucoup moins beau. On est plus à l'avance, mais on voit bien que c'est les courbes du bas qui m'intéressent. Parce que la courbe bleue, c'est la courbe de force relative du secteur par rapport au Stock 600. Et on voit qu'il arrête de sous-performer le secteur de la santé. Et la courbe qui a sous le ratio de force relative.
Des foncières,
Foncières. Et la courbe du bas, c'est ce qu'on appelle le rate of change, et c'est le rate of change du ratio de force relative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sous-performance des foncières est en train de ralentir. Et donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur un niveau là où on attend le trigger. Et Bertrand disait que, en fait, ça prend du temps. On est dans cette période de transition. Et là, on la voit, la transition. On voit que ça tient, mais on ne voit pas encore les acheteurs qui matérialisent les flux.
C'est plus early que la santé.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Bon, est-ce qu'on attend aussi le trigger sur les small et mid-cap, Bertrand ? Vous disiez, là, le mois de mars marque un petit changement. C'est vrai que j'ai vu que le CAC small avait mieux fait que le CAC large.
Sur la participation, vous savez, je vous parle des dossiers qui sont en hausse versus ceux qui sont en baisse sur le sujet. Là, pareil, il y a un truc très nouveau, c'est la première fois que ça arrive. On a 35% de participation sur les mid de la zone euro. On est seulement à 33% sur les larges. Or, c'est rien, 2%, vous allez me dire, ok, ils gèrent des fonds de mid et small cap, tout est bon. Oui, mais sauf que ça faisait 5 ans que c'est pas arrivé.
On n'avait pas vu ça.
Donc voilà, donc juste, il faut être attentif à ça. Et un dernier point, puisque j'ai oublié de le citer, mais sur la participation aux États-Unis, 21%. Donc vous voyez, versus 33% en Europe. Donc, tout ça, voilà, donc tout ça mis bout à bout.
Donc, ça se diffuse plus en Europe.
Donc. Moi, je pense qu'il faut commencer de la même manière. On parlait des foncières. Typiquement, on a commencé, nous, à mettre Vonovia, qui est une foncière allemande dans le portefeuille.
Bien sûr.
Alors, dernière ligne du portefeuille, histoire de l'avoir.
Histoire d'un crash monumental, comme toutes les foncières cotées en Europe. Beaucoup, en tout cas.
Donc, du coup, elle apporte rien en termes de performance, faut être concret. Moi, ça m'embête de.
Mais c'est asymétrique.
Mettez
un petit coup de.
je regarde et
dessus,
le jour où ça part, je l'ai sous les yeux et du coup, on sera capable d'en remettre une deuxième, une troisième. Et je pense que c'est pareil sur les indices mid and small parce que les foncières, je pense qu'il n'y en a plus dans les portefeuilles. Les mid and small, il n'y en a plus dans les portefeuilles. Avec les foncières, on peut faire la différence à l'indice. Je crois que l'indice des foncières, il doit représenter 2 ou 3% des grands indices, donc c'est ridicule. Donc à partir du moment où ça part et que vous avez deux ou trois valeurs, 6-7% du portefeuille, vous faites la différence.
Être prêt, c'est déjà avoir des petites lignes prêtes qu'on puisse se renforcer.
En tout cas, travailler sur les sociétés qu'on va vouloir avoir avant de les avoir pour savoir quand il faudra agir, quoi faire.
Bon, ben voilà, une nouvelle...
Une nouvelle séquence Grégoire, qui je pense va favoriser les stock pickers.
Qui va favoriser les stock pickers. Très bien. Bon, on fera le point le mois prochain, messieurs. Merci beaucoup. Le grand tableau de bord des marchés, c'est chaque dernier vendredi du mois. Laurent Albi, Next Momentum, et Bertrand Lamiel, Ports en Part Gestion, étaient avec nous.